Salut les joueuses, salut les joueurs. Nous sommes en février 2025 et vous écoutez Le Pour et le Contre, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Caducée et je serai l'arbitre, ou plutôt la shérif de cette émission, qui traitera de Colt Express. Deux des membres de l'équipe vont s'affronter, l'un pour défendre le jeu, l'autre pour le descendre. Et pour ce duel au soleil, sans doute impitoyable, j'accueille deux sublimes canailles, le Pionfesseur et Kurtz. Salut Pionfesseur.
Salut, salut. Alors les auditeurs ne savent pas encore si je suis le shérif ou le bandit.
Ah, on va le découvrir très bientôt. Est-ce que tu as préparé tes armes ?
J'ai bien compté mes balles. J'espère que je saurai les tirer au bon moment.
Oh, j'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Et salut Kurtz.
Salut Caducée, salut Pionfesseur. Ça veut dire que les auditeurs ne savent pas encore si je suis le bon, la brute ou le truand.
Exactement.
C'est vrai qu'on est trois, donc il y a Caducée aussi qui est...
Et il y a Caducée aussi.
Oui, alors moi je fais plutôt shérif dans l'ombre. Je vais vous observer et puis... Je verrai un petit peu ce qui ressort de cet affrontement.
Ok.
Mais si vous êtes d'accord, on va d'abord commencer par remercier nos donateurs et donatrices.
Donc nous remercions Cal Hervé, Gaume, Sam Chakit, Yann Solo, Beru, Mouton, Olive Link.
Et on remercie aussi Delotte, Ophélie, Croclume, Laurent 36, Karl Schnaps et Berdou.
Et nous remercions également notre sponsor, La Caverne du Gobelin, qui nous aide à réaliser ce podcast. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt, mais également un site de vente en ligne accessible sur cavernedugobelin.com. Avant de partir à la conquête de l'Ouest, on va faire un retour sur les commentaires de la dernière émission, qui était consacrée aux ruines perdues de Narak, avec Drew dans le camp du Pour et Cyrus dans le camp du Contre, le tout arbitré par Elodie. On vous remercie pour vos 9 commentaires.
On espère qu'on en aura plus.
On en veut toujours plus de toute façon.
Moi j'en veux toujours plus.
Ouais, ça on a compris que tu aimais beaucoup les commentaires. Zoidberg aurait aimé que la partie exploration soit plus développée dans le jeu et trouve la partie piste de recherche moins intéressante mécaniquement et thématiquement. Julien au contraire met en avant le fait qu'il adore cette piste et la considère incontournable. Il note également que les points négatifs abordés par Cyrus tiennent selon lui plus de goût personnel que de réels défauts dans le game design. Moatib, pour son immersion thématique, se projette plutôt comme un gestionnaire d'expédition que comme l'explorateur lui-même. Pionfesseur, tu interviens également pour expliquer que ce n'est pas parce que les ressources sont en 3D qu'elles participent à l'immersion et qu'il faut plus s'attacher à ce que représentent réellement ces ressources et à leur usage dans la partie pour les définir comme des éléments immersifs ou non. Enfin, Vélos nous demande la définition du terme « ludème ». Cyrus notait en effet que dans les ruines perdues de Narak, il y avait beaucoup de ludèmes différents. Un ludème, c'est l'élément utile le plus minimal d'un jeu ou un élément de règle dans un jeu de société. Est-ce que vous avez l'un ou l'autre des choses à rajouter par rapport aux commentaires ou à l'émission précédente ?
Moi, j'avais un petit commentaire à faire, une petite expérience vécue sur Narak. Narak, c'est le seul jeu, il y a quelques années, où autour d'une table, à un moment, j'ai bugué. Le jeu, mon cerveau a fait stop. Et en fait, j'essayais de calculer, il me faut du bleu, puis du jaune, après je vais faire ça. Non, je vais pas faire ça. Et puis j'ai fait à mes potes, je suis désolé les gars, j'y arrive plus. J'arrive pas à savoir ce qu'il faut que je fasse dans le jeu. Est-ce que ça vous dérange si je prends des notes ?
Ah, la évidemment, fameuse prise de notes. Ouais.
Non, mais clairement, oui, ils en ont parlé dans l'émission, mais clairement, par chance, c'est des potes qui sont bienveillants. Ils ont accepté. Ça a été, pour moi, ça a été beaucoup mieux de savoir que j'ai noté. D'accord. En première action, il faut que je fasse ça. Je me suis vraiment retrouvé bloqué et ça m'a pas fait plaisir de ressentir ça face à un jeu de société, franchement. Bon, après, c'est juste un passage à vide, hein, mais voilà, c'était pour apporter ma petite contribution 36-15 ma vie, quoi.
Donc ça t'a aidé, mais ça n'a pas été une expérience agréable pour autant.
Si, au final, le jeu, je l'apprécie. C'est juste que voilà, je pense qu'en prenant des notes, en se disant « faut que je fasse ça, puis que je fasse ça » pour organiser ces actions, après tout, il n'y a rien qui l'interdit.
Et toi, voilà. Pionf, prise de notes pendant les jeux, adepte, pas adepte ?
Bon, non, à part peut-être les jeux de déduction, mais ça fait partie du jeu et oui. Généralement ils te le fournissent, tu sais, le truc pour prendre des notes.
Ouais,
mais
bien sûr.
Narak, ça va. Après, moi, j'ai pas aimé le jeu, mais j'ai pas spécialement besoin de prendre de notes quand j'y joue. Mais ouais, voilà. Bon, globalement, je suis Team Cyrus sur cette émission. Et c'est cool que tu aies relu mon commentaire sur l'immersion qui vient pas forcément des ressources qui sont en 3D ou
oui.
en joli matériel. Mm. Parce que c'est possible qu'on en reparle aujourd'hui hein, sur Colt Express.
C'est probable,
ah,
oui.
C'est possible.
Voilà, quoi qu'il en soit, on vous encourage à aller lire l'ensemble des commentaires sur le site de Proxy Jeux. Je vais vous proposer un petit point sur le déroulé de l'émission. Après un rapide avis à chaud pour savoir qui est dans quel camp, on passera à la présentation du jeu, puis au débat des deux parties, avant de conclure en synthétisant les différents arguments qui auront été présentés. Et puis on va commencer tranquillou. Vous êtes prêts tous les deux ?
Oui, yes.
Et je donne ainsi le coup d'envoi pour ce « Le pour et le contre » consacré à Colt Express. Pionfesseur, je te laisse la parole pour un rapide avis à chaud.
Ok, bah du coup, moi, Colt Express, spoiler, je suis dans le camp du « pour ». Oh là
ah.
là. Alors, est-ce que ça veut dire que je suis le bon ou le truand, du coup ?
On verra ça à la fin de l'émission.
Non, mais voilà, Colt Express, c'est un jeu qui m'avait beaucoup surpris, surtout à l'époque. Parce que, pareil, il m'avait semblé, vu de loin, que c'était un jeu pas original. Et puis je me suis dit, oh là là, il y a le train en 3D, vraiment, tu vois, c'est le truc pour attirer les gens et c'est sûrement nul. Et en fait, j'y ai joué, je me suis dit, ah ben en fait, c'est vachement osé comme game design. Donc j'expliquerai tout au long de l'émission pourquoi. Mais je trouve que c'est un jeu qui ose des choses qu'on n'osait peut-être plus faire déjà à l'époque. Depuis un moment dans des jeux de société. Et finalement, il était pas mal en dehors des canons, même de l'époque. Enfin, quand je dis de l'époque, c'était il y a 10 ans. Hein. Et je trouve que même aujourd'hui, tu vois, il pourrait sortir aujourd'hui qu'il serait encore assez original. Il apporte quelque chose et il fait vivre des émotions. Et n'est-ce pas ce qu'on demande à un jeu de société ?
Et donc, Kurtz, tu es donc dans le camp du contre ?
Je suis totalement dans le camp du contre. Ce sera pas un avis mitigé. Quand le jeu est sorti il y a 10 ans, tout le monde, beaucoup de gens autour de moi se sont jetés dessus. Ils ont vu la 8e merveille du monde. Malheureusement, j'ai donc été amené à beaucoup y jouer à l'époque. Je l'ai instantanément détesté. Donc j'y ai pas rejoué depuis. Et là, avec l'émission se présentant, je me suis dit non, mais quand même. Fait quelque chose. Donc j'en ai refait une partie en physique il y a peu, j'ai réessayé de faire quelques parties sur BGA. Alors spoiler alerte, n'y jouez pas sur BGA. Et mon avis n'a pas changé. Je n'aime pas ce jeu.
Merci à tous les deux. On va passer à une rapide présentation du jeu avant que je vous laisse la parole pour les débats. Donc on parle de Colt Express qui est sorti en 2014, édité par Ludonaut, créé par Christophe Rimbaud et illustré par Jordi Valbuena. Il est annoncé pour 2 à 6 joueuses à partir de 10 ans et des parties d'une durée de 40 minutes. Actuellement noté sur BGG 7.1 avec un poids de 1.84, classé à la place 525 au classement général et 147e dans les jeux famille. La boîte de base est actuellement disponible à l'achat à la Caverne du Gobelin pour 32,90€. Pour vous présenter le concept de Colt Express, j'ai piqué l'idée d'Elodie et je vais vous lire le pitch commercial disponible sur le site de Ludonaut. Pas de pitié, pas d'alliance possible. Entre les wagons, sur le toit, les balles fusent, les hors-la-loi sont blessés. Le marshal patrouille dans le train et contrecarre le plan des bandits. Il est un danger supplémentaire dans cette folle entreprise. Dans Colt Express, les joueurs incarnent des bandits desperados qui se lancent à l'attaque d'un train de voyageurs. Qui obtiendra le titre d'as de la gâchette à la fin du jeu ? Qui aura le plus gros butin ? Chacun a sa propre personnalité, mais au bout du compte, tous n'ont qu'un seul but, celui de réunir le plus gros magot pour lui-même en détroussant les passagers avant que le train n'arrive en gare. Une partie se déroule en 5 manches, à chaque manche 2 phases de jeu, programmation des actions sur une pile de cartes communes, réalisation des actions jouées dans la première phase. Une carte événement piochée au début de chaque manche indique le nombre de tours de table effectués lors de la première phase, ainsi que la manière dont les cartes actions vont être jouées. Les actions possibles sont avancer, changer d'étage, coup de poing, voler, tirer et déplacer le marshal. Lorsqu'un bandit est blessé par un autre bandit ou par le marshal, le joueur reçoit une carte blessure qu'il ajoute à son paquet de cartes actions. Ces cartes blessures sont des cartes mortes qui vont le handicaper car elles diluent son jeu. En fin de partie, chacun compte son butin. Le bandit ayant le plus blessé ses adversaires devient as de la gâchette et gagne 1000 dollars supplémentaires. Le plus riche est déclaré vainqueur. Ce que le pitch ne dit pas, et qui est pourtant la première chose à laquelle on pense quand on parle de Colt Express, c'est que tout ça se déroule sur et autour d'un train en 3D avec locomotive et wagon. Concernant les distinctions de Colt Express, il a gagné en 2015 l'As d'Or, le Spiel des Jahres, le Juego del Año, le Gioco del Año. Il a aussi été mis en avant au Golden Geek de 2014 dans les catégories « Jeu le plus innovant », « Meilleur jeu thématique », « Meilleur jeu de société familiale ». Depuis 2014, on peut signaler l'apparition d'extensions qui ajoutent des éléments de jeu et de nouvelles règles, chevaux et diligences, marshal et prisonniers, ainsi que courriers et trains blindés. Il existe également une multitude de mini-extensions qui proposent des bandits automates contre lesquels vous devez lutter en plus de vos adversaires. Et comme le jeu vient de fêter ses 10 ans, un pack anniversaire a vu le jour avec des jetons en bois, de nouvelles voitures, de nouveaux bandits et des cartes spéciales. Mais ce n'est pas tout. Une version XXL est actuellement disponible en précommande sur le site de Ludonote avec des éléments de jeu et un train surdimensionné ainsi qu'un tapis de jeu. Le train complet, locomotive et les 6 wagons mis bout à bout occuperaient une longueur d'1,60 m. Version que vous avez d'ailleurs peut-être déjà croisée en festival. Pour terminer avec un tour d'horizon complet, on peut également citer l'existence d'une déclinaison de gamme avec Colt Super Express sorti en 2020, une adaptation sans éléments en 3D, plus rapide et avec une mécanique de survie, et Kid Express sorti en 2024, accessible dès 5 ans, dans lequel 1 à 4 enfants tenteront de récupérer de l'or volé par des bandits. Colt Express a déjà été abordé sur les programmes de proxy jeux. Julien l'a mis en scène dans sa chronique « Le micro dans la boîte » en avril 2023. Cyrus parle de sa version numérique dans les chroniques de février 2017 dans Plateau numérique. Et vous pourrez également trouver une interview de Christophe Rimbaud qui revient sur la création du jeu, menée par Jérémy, dans l'émission « Nos jeux de novembre » diffusée en décembre 2014. Avant de vous laisser le micro, Pionfesseur, Kurtz, que vous soyez le bon, la brute ou le truand, n'oubliez pas les règles de base des débats oratoires. On ne se coupe pas la parole, on ne boucle pas sur les mêmes arguments, on reste centré sur Colt Express, sinon je me verrai dans l'obligation de stopper le train en route et de vous consigner dans les geôles de Pidgey Town. Le primo intervenant ayant été désigné à l'issue d'un duel de regards sans cligner des yeux, c'est donc Kurtz qui a la parole.
Merci Caducé. Eh bien écoutez, c'est parti. J'avais envie de commencer par une petite histoire que je vais peut-être vous improviser au fur et à mesure, qui vous permettra de vous montrer mon ressenti par rapport à ce jeu, et pourquoi une des raisons principales pour lesquelles je ne l'aime pas. Je vais vous parler de Belle. Belle, c'est une femme dont le mari a été tué par le shérif, un shérif renégat, et qui pour survivre a décidé de devenir une hors-la-loi. Belle, pour une raison qu'il ignore, se retrouve debout sur le toit d'un train. Jusqu'ici, tout va bien. Belle décide de descendre dans le wagon. Jusqu'ici, tout va bien, ça suit le plan. Arrive un tunnel, pendant quelques secondes, Belle se retrouve dans le noir. Ensuite, Belle décide, pour une raison que personne ne comprend, de mettre un coup de poing dans le vide, de tirer dans le plafond et de ramasser rien. Est-ce que Belle serait un peu con-con ? On ne sait pas. Voilà, vous avez compris une des raisons pour lesquelles je n'aime pas ce jeu. Donc pour moi, ça fait partie de la mécanique. Vu que la mécanique du jeu, c'était bien évidemment, comme Caducé nous l'a très bien résumé en début, la première partie, c'est de la programmation. Sauf qu'il y a une partie de la programmation qui se fait en aveugle. On peut suivre, potentiellement, ce que programment nos adversaires, ce que nous on programme, mais arrivent des tunnels, ce qui fait qu'on joue une partie des cartes face cachée, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui fait qu'on se retrouve à faire les trois quarts de nos actions dans le vide. Faut quand même être un peu con-con pour tirer dans le vide, mettre un coup de poing dans le vide et essayer de ramasser rien. Moi, cette partie-là me plaît pas du tout. Alors évidemment que ça commence à savoir un peu, moi je suis un grand fan de jeux abstraits avec un contrôle absolu et aucun hasard. Je sais que Pionfesseur, à l'opposé, déteste les jeux abstraits et aime quand il y a du hasard et un peu de chaos dans les jeux. Vous aurez tout de suite compris pourquoi je suis dans le camp du contre, pourquoi lui dans le camp du pour. Voilà, ça c'est mon premier argument par rapport à ce jeu, c'est dans sa mécanique de programmation.
Donc toi, Kurt, pas trop fan de cette programmation à l'aveugle, Pionfesseur, qu'est-ce que tu en penses de ton côté ?
Déjà, j'ai envie de dire, si on prend les jeux canoniques du style programmation, généralement on est beaucoup plus à l'aveugle que ça, genre... Tout le monde pense en général à Roborally comme étant un peu le premier jeu de programmation. Ensuite, on peut citer River Dragons. Donc en fait, c'est les dragons du Mékong, c'est la réédition. Ou je sais pas, Himalaya. Pour citer, j'essaye de citer que des jeux qui sont avant Colt Express. Généralement, c'était des jeux où on faisait une espèce de gros choix simultané, où on programmait genre 5 à 6 actions face cachée. Puis on les révélait, et donc évidemment, tout l'enjeu, je dirais, des jeux de programmation, c'est que ça peut foirer. C'est ça qui est, je trouve, intéressant, c'est que, comme dans les jeux de choix simultanés, même, on peut remonter à Stupide Vautour, qui n'est pas un jeu de programmation, mais qui est un jeu de pur choix simultané, tout le principe, c'est que ton action, elle va pas marcher à chaque fois, quoi.
Oui, bien sûr.
Et que ça va se niveler au cours de la partie, puisque, dans l'idée, il y a un peu autant de probabilités pour chaque joueur que ça foire, on va dire. Et donc, il va y avoir ce côté, un coup c'est lui qui va se foirer, un coup c'est lui, un coup c'est l'autre et tout ça. Après, je sais pas si toi, par exemple, dans la programmation de Colt Express, c'est plutôt l'aspect thématique qui te pose problème, mais dans ce cas-là, je pense qu'il faudra en parler dans un second point. Ou si c'est juste l'aspect mécanique de dire, des fois, j'ai des actions qui ne font rien, tu vois.
Non, c'est plus la mécanique, effectivement, oui. Mais pour revenir sur les jeux que tu citais avant, je suis pas forcément particulièrement fan avec des jeux où de la programmation à l'aveugle. Pour moi, ça a peu de sens, en fait. Je dis pas qu'un jeu... Tu vois, la suspension volontaire de la crédulité, pour moi, ça marche pas du tout. La personne qui fout un coup de poing dans le vide et qui tire dans le plafond pour rien... Je m'y retrouve pas et ça m'ennuie. Enfin, ça m'ennuie. Je me comprends. Ça m'ennuie. Enfin, il y a d'autres trucs dans le jeu qui m'ennuient. Je m'ennuie quand ça. Mais on y reviendra plus tard. Mais voilà, pour moi, ça a peu de sens et puis ça m'amuse pas particulièrement. Voilà.
Moi, j'ai envie de dire, je suis ok avec ça. On pourra en reparler pendant dans un autre point si tu veux sur la thématique. Mm-hmm. Mais déjà d'un point de vue mécanique, tu vois, Colt Express justement par rapport à d'autres jeux de programmation. Je trouve qu'il y a une grosse différence, c'est que la plupart de la programmation se fait quand même face visible. C'est-à-dire qu'il y a juste les tunnels où il y a une partie face cachée. Et en plus, c'est une programmation qui se fait pas toute d'un coup. C'est-à-dire que c'est... D'ailleurs, je trouve le truc vraiment original et un peu unique dans ce jeu. Je vois pas d'autres jeux qui fait ça, qui fait une espèce de programmation, on va dire, semi-simultanée. C'est-à-dire, je mets une carte... Puis le suivant met une carte, puis le suivant met une carte, etc.
Oui, oui.
Chacun son
programmation
tour.
Programmation séquentielle, on pourrait proposer.
Ouais, séquentielle, c'est pas mal. Mm. En fait, ça ressemble un peu à des vieux jeux de pose d'ouvriers, genre Keylus ou Les Piliers de la Terre, tu vois, où effectivement on posait chacun à notre tour un ouvrier, et ensuite il y a tout qui se résout, tu vois.
Oui.
Ça ressemble plus à ça finalement. Et je sais pas ce que t'en penses, Kurt, mais Keylus et Les Piliers de la Terre, c'est quand même des jeux où t'as pas mal de contrôle.
Ah
et
oui.
Colt Express, finalement, tu vois, moi je trouve que si c'était... Enfin, tu sais, il y a des cartes où il n'y a pas de tunnel et il y a des cartes où il y a des tunnels.
Oui, oui. Oui, ben là, les cartes où il n'y a pas du tout de tunnel, à la rigueur, c'est à peu près suivable. Tu peux te dire, je fais ça, puis fais ça, le suivant fait ça, on sera dans telle position. À la rigueur, tu prends des notes. Enfin voilà, mais ça reste faisable. Mais pour en revenir au jeu de pose d'ouvrier où tu disais, au moment où, même s'il y a 4 personnes qui ont joué avant moi, au moment où moi je vais venir jouer, je sais ce qui s'est passé. Alors que dans Colt Express, pas forcément. Et là, je vais m'adapter en fonction de la situation au moment donné. C'est la différence pour moi.
Oui.
Et des fois, un tunnel qui arrive un peu tôt, toute la suite, tout ce qui arrive après n'aura aucun sens.
C'est ça qui est génial, en fait, je trouve. Parce que
je sais pas.
C'est pas que ça a aucun sens. C'est que tu dois essayer de
Oui.
De mind game, tu vois, de second guess, comme on dit, tu vois, le double guessing. Tu dois essayer de deviner, de te mettre dans la tête des autres, de se dire qu'est-ce qui va jouer, tu vois, qu'est-ce qui peut jouer à ce moment-là. Et donc, bah, je sais pas, un petit peu comme dans tous les jeux de déduction, dans Scotland Yard ou des trucs comme ça, tu vois, tu dois te dire, ok, voilà tous les chemins possibles qu'il a pu prendre. Et donc, voilà, est-ce que je prends le risque ou pas de me dire, il va faire ça, quoi.
Je sais pas. Dans Scotland Yard, je connais toutes les actions que peut faire l'adversaire. Là, je sais toutes celles qu'il peut faire. Mais je sais pas quelle carte il a en main. Non, je sais pas quelle carte il a en main. Est-ce qu'il pouvait faire l'action, la meilleure action à ce moment-là?
Mais c'est ça, ça que ça je rajoute trouve... une. Moi, je trouve ça encore plus génial.
Ah non, mais. Oui, oui, bah écoute. Non, mais je comprends. Alors qu'on soit d'accord, c'est pas parce que je n'aime pas le jeu que je ne comprends pas l'attrait qu'en ont certaines personnes. Enfin, l'attrait qu'il a. De toute façon, je me bats contre le monde entier hein, en aimant pas ce jeu-là, j'en suis bien conscient.
Oui. Hein.
Mais voilà.
Alors là, d'autant plus que le guessing est multiplié par le nombre de joueuses présentes. Hein, parce que là, tu citais Scotland Yard où tu essayes de deviner les mouvements d'un seul personnage. Là, tu essayes d'anticiper sur les mouvements de toutes les joueuses qui vont être présentes autour de la table.
Ouais, je suis tout à fait d'accord.
Avec une possibilité aussi d'adapter ses actions en fonction des conséquences des actions précédentes.
Tout à fait. Et comme dit Kurtz aussi, avec en plus, tu vois, la couche de contrairement à par exemple justement River Dragons ou Himalaya, le fait que tu ne sais pas la main de l'adversaire, donc si ça se trouve, il a pas fait un choix. Juste parce qu'il n'a pas pioché les bonnes cartes, en fait.
Voilà.
Et ça, je trouve ça trop cool, parce qu'en fait, du coup, ça fait un truc qui n'est pas, justement, 100% calculatoire. Et moi, honnêtement, j'aime pas trop les cartes où il n'y a pas de tunnel. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment donné, tu vois, il y a une inconnue, et hop, ça part en couille, et on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer, quoi, tu vois. Et je trouve qu'il y a vraiment ce sentiment du fait de la programmation comme ça, comme on a dit, séquentielle. Tu sais, à la fin, ça fait un gros paquet de cartes. Et on va le retourner, et ensuite on va le résoudre. Et je trouve qu'en termes de mise en scène, ça fait vraiment, on se dit, oh la vache, ça va être le bordel. Tu vois, à partir du moment où il y a eu un tunnel, je trouve que souvent autour de la table, le premier truc qui se dit, c'est, oh purée, il va se passer des trucs, on sait pas quoi, mais il va se passer des trucs. Et ça, je trouve que, en fait, c'est hyper fort en termes de sentiment, tu vois, ça te fait trépigner comme dans, bah, justement, peut-être un bon western où, tu vois, t'as une tension qui monte comme ça, et que tu dis, ok, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une situation, il y a un nœud qui s'est créé et qui va se dénouer d'un coup et ça va être incroyable, tu vois.
Ouais, avec le gros plan sur les regards, la petite goutte de sueur qui dégouline.
Je comprends. Moi, honnêtement, je pense que je m'amuserais plus et c'est complètement. Alors attention, je vais taper dans l'absurde pur Monty Python où si chaque joueur prenait son paquet de cartes, le battait. Ne regardait pas, et chacun en posait une, puis une, puis une, puis une, et que là on dépilait, juste pour regarder ce qui se passe, et on rajoute la musique Camelot des Monty Python par-dessus. Là, ce serait rigolo.
Mais ouais,
non, mais on est dans l'absurde, carrément. Ouais, ouais, pour moi, c'est un peu le sentiment que j'ai en jouant à ce jeu, si tu vois ce que je veux dire. Voilà.
Mais tu sais, ce que tu me dis, ça me fait penser à des gens qui jouaient à, tu vois, le jeu Skull and Roses, peut-être.
Ouais.
Dans Skull and Roses, il y a un côté vraiment pur bluff. Et il y a des gens qui jouent comme ça en mélangeant leur paquet de cartes et en mettant au hasard.
Non, ça, c'est pas drôle, ça.
Ce qui est normalement interdit dans la règle. Hein. Mais justement, en fait, pour moi, ces gens-là n'ont juste pas capté que le principe du jeu, justement, c'est de faire du mind game. Et je pense que Colt Express, c'est aussi ce truc-là, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a cette tension, comme je disais, digne d'un western. C'est le côté vraiment, ok, là, possiblement, il a fait ça. C'est à peu près sûr, tu vois, qu'il a fait ça. Même, il y a quand même plein d'indices dans le train qui te disent, ok, tel wagon est vraiment intéressant. Tel wagon contient beaucoup de personnes, donc si tu tires dedans, il y a quand même moyen que tu touches quelqu'un. Enfin, tu vois, il y a quand même plein d'actions qui sont finalement quand même prédictibles dans une certaine mesure.
Ouais.
Donc, t'es vraiment dans ce sentiment à mi-chemin que moi j'adore, qui est ni trop dans le contrôle, ni trop dans le hasard. C'est pour ça, tu vois, moi tu me dis mélanger les cartes à 100%, ça j'aimerais pas non plus. Mais en même temps, 100% de contrôle, j'aime pas non plus. Tu vois, moi j'aime vraiment quand c'est pile au milieu, parce que ça crée, tu vois, une tension. Sinon, je trouve qu'en fait, le jeu est trop visible, ou alors j'ai pas assez de contrôle dessus, en fait, tu vois.
Je vois, je vois.
Donc, cette espèce de choix simultané, mais pas total, pas parfait, tu vois, je trouve ça trop bien, tu vois.
Oui. Non, mais je comprends. Moi, je pense que ce qui me manque, c'est que, mais bon, ça enlèverait tout l'intérêt, ce serait plus le même jeu. C'est que, quand bien même tu programmes tes actions, au moment d'arriver la situation de résoudre, t'adapter. Mais
t'as le sentiment que c'est random.
C'est random. Bah, si je suis tout seul dans un wagon et que j'avais programmé de mettre un coup de poing, bah, je me sens con, je mets un coup de poing. Et moi, personnellement, j'ai l'impression, ça, c'est un point que j'aurais pu aborder plus tard, mais je vais le dire maintenant, qu'à partir du moment où ma série d'actions programmées commence à partir en couille, je vais me faire chier. Parce que il n'y a plus rien qui va marcher. Donc, je vais regarder le truc se dépiler, les actions se faire. Puis, si ça se trouve, les autres, ils vont aussi faire n'importe quoi autour du wagon. Ça va être un joyeux bordel. Mais moi, je m'ennuie, quoi, à partir de ce moment-là, tu vois.
Ok, ouais, c'est ouf parce que moi, c'est vraiment l'opposé, quoi. C'est-à-dire que quand ma programmation foire, je suis mort de rire, en fait.
Je comprends. Hein.
C'est ouf parce qu'en fait, je me suis fait déglinguer. Et c'est un peu comme un sentiment que j'ai aussi dans Galaxy Trucker, qui est un jeu incroyable. Mmh. Où quand ton vaisseau commence à se faire démolir, tu sais, il y a un côté un peu boule de neige, un peu ridicule, tu vois, et je trouve pas le terme français goofy, quoi, tu vois.
Cartoonesque.
Cartoonesque, ouais, exactement, ouais. Voilà, cartoonesque, qui fait que, tu vois, ton mec, il se casse la gueule, et puis, tu vois, il lui arrive que des merdes, il arrive plus à ramasser des trucs tellement il y a plus rien, enfin, il fait tout de travers, quoi, tu vois, un peu, ton personnage. Et pour moi, c'est un des enjeux des jeux de programmation. Tu vois, dans Robo Rally, c'était particulièrement thématiquement drôle parce que c'était des robots, tu vois. Donc tu te dis, ok, ils ont programmé leur truc. Puis il y en a un qui se fait pousser et là, il fait nimp, tu vois.
Pour moi, Robo Rally, il y avait une cohérence thématique.
Oui, oui.
Là, c'est censé être des êtres humains qui font des trucs. Enfin, voilà, ça. Ouais. Non, mais bon.
Mais tout ça pour dire que dans Colt Express, il y a quand même. Ce sentiment, et en fait, faut qu'il y ait ce sentiment pour moi dans tous les jeux de programmation, de tu peux aussi pourrir la séquence des autres. Par exemple, bah, avec les coups de poing, où tu sais, tu décales le personnage, ou avec le Marshall, où aussi tu décales, tu sais, sur le toit le personnage. Et pour moi, c'est hyper important ça, parce que ça permet justement de créer ce truc où tu dis, oh putain, mais en fait, j'avais prévu 15 000 trucs, mais les autres, ils m'ont tous pourri, et donc du coup, il se passe rien. Mais en fait, en même temps, si les autres ont aussi choisi de te pourrir, donc. C'est là aussi que c'est un jeu à interaction, très direct.
Et puisque tu parles de ça, des fois, j'ai un peu l'impression qu'il y a des fois un... Alors, on n'est pas censé... Un acharnement sur certains joueurs ou une ligue de certains joueurs contre d'autres joueurs.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Qui n'est pas très agréable quand c'est contre toi. D'autant plus que quand tu commences à manger du plomb, tu collectionnes des cartes, les cartes à la con qui te pourrissent ton jeu. Celle dont Caducée nous disait qu'elle te dilue ta main. Et effectivement, il y a un moment, ça devient, t'es un peu le dindon de la farce, quoi. Tu vois, c'est un peu pénible quand tu commences à manger sérieusement.
Mais justement, ça, c'est... En fait, il y a plusieurs interactions très directes dans le jeu. Donc, il y a, comme tu dis, les balles, il y a le coup de poing, il y a le Marshall et tout. Pour moi, si tu trouves que le jeu est trop aléatoire, alors, on s'entend, c'est pas de l'aléatoire, c'est il y a trop d'inconnus. Je dis que c'est de l'inconnu parce que c'est les joueurs qui le font. C'est pas un dé, par exemple.
Plus de la surprise, presque.
Ouais, exactement, voilà. Si tu trouves qu'il y a trop de surprises et que tu peux pas contrôler, en fait, l'interaction directe devrait régler ça, puisque... C'est un truc qu'on connaît depuis Rencontre Cosmique, c'est que quand tu fais des jeux avec des attaques très directes, donc du take that, comme disent les Américains,
oui.
tu peux... En fait, tu donnes aux joueurs la responsabilité de rééquilibrer la table, et ça fait ce qu'on appelle, tu sais, les jeux de Schwiner, moi j'appelle ça.
Oui.
Genre, chacun va dire « Ah, c'est lui qui est en train de gagner, c'est lui qui a le plus de thunes, alors il faut l'attaquer, nanana. » Moi, j'aime bien ça, parce que du coup, tu vois, ça incite les joueurs et les joueuses autour de la table à réfléchir un peu collectivement à qui c'est qui est en train de gagner, qu'est-ce qu'on devrait faire. Tu vois, on met en place des espèces d'alliances temporaires et donc, bah, encore une fois, il se passe quelque chose, quoi, autour de la table. Tu vois, c'est pas les trucs où on joue chacun dans son coin. Non, moi, j'aime bien certains jeux où on joue chacun dans son coin, hein, c'est pas le problème. Mais je trouve que, tu vois, c'est un sentiment qui est vraiment assez particulier et assez unique aussi, de se dire, ah ok, il y a des espèces d'alliances qui vont tourner. Et toi, finalement, tu sais, tu vas me trahir parce que juste, finalement, maintenant, tu penses que c'est moi qui est premier joueur et tout. Et donc, ça fait encore un truc très dynamique. Tu vois, c'est un peu ça, finalement, le ressort mécanique du jeu. C'est un truc qui rebondit dans tous les sens. Tu vois, c'est vraiment le sentiment que j'ai, ça, par l'interaction et par la programmation qui peut se foirer, quoi.
C'est amusant que tu parlais d'interaction parce que j'ai quand même été, histoire de relever d'autres avis négatifs, il n'y en a pas beaucoup, jeter un œil sur BGG, etc. Et il y a des gens qui parlaient de trop d'interactions. Et c'est effectivement, c'est un sentiment que je ressens dans ce jeu-là. Trop d'interactions. Il y a des gens qui se plaignent que certains jeux n'ont pas assez. Celui-là, pour moi, en a trop. Voilà.
Ouais, mais du coup, quel est le problème, en fait? Tu vois, dans le fait qu'il y ait trop
d'interactions. Oui. Je reconnais, s'il y avait moins d'interactions, etc., ce serait pas le même jeu, on est bien d'accord. Voilà, encore une fois, c'est vraiment mon ressenti, mon avis.
C'est pas ça que je te dis, c'est juste, explique-moi, genre, en quoi le fait qu'il y ait beaucoup d'interactions dans ce jeu, ça te fait ressentir un truc négatif, qu'est-ce que ça te fait ressentir, en fait, tu vois?
Mais faites trop d'interactions dans le sens t'as aucun contrôle sur quoi que ce soit, en fait. Dans ce sens-là, ouais.
Oui, ok, c'est de l'interaction qui casse ton contrôle.
Le trop d'interaction vient justement te donner un petit peu de marge de manœuvre pour pouvoir réagir dans certaines situations. Et le trop d'interaction avec cet effet boule de neige fait que parfois, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas pouvoir agir, alors que, en fait, peut-être que si ta séquence était déroulée sans qu'il y ait une interaction en amont avec d'autres personnages, t'aurais pas pu mettre ton coup de poing avec efficacité, tu vois. C'est justement parce qu'il y a plein d'interactions que tu peux progressivement, parfois, réussir des choses que t'aurais pas espéré réussir.
Oui, et puis effectivement, des fois par hasard, t'avais prévu de cogner Robert, tu tapes Maurice. Hein.
Exactement.
Ça, c'est, tant mieux, il passait par là, il a morflé pour l'autre. Hein. Mais oui, absolument. Il y a quand même ce côté-là où tout n'est pas perdu.
Ou la paroi du train, mieux. Si tu te retrouves tout seul dans ton wagon. Mais voilà.
Voilà. Voilà.
Non, parce qu'il y a des jeux avec trop d'interactions où, par exemple, le problème, ça va être que ça sert presque à rien d'être premier parce que tout le monde va te défoncer et finalement, tu finiras. Tu vois? Mais j'ai pas trop ce sentiment-là à Colt Express, tu vois, parce qu'il y a tellement de hasard et de programmation.
Au moins dans Colt Express, au moins le premier, au moins sa première action, elle fera ce qu'il avait prévu.
Alors, vous parlez pas de la même chose. Je crois que Pionf, tu parles de premier en positionnement par rapport au butin, et Kurt, tu parles de premier joueur.
De premier joueur. Non, désolé, on s'est pas compris, effectivement.
Ouais, non, je voulais dire, oui. Ouais, si t'es premier, c'était genre en train de gagner, tu vois.
Oui. Ah bah là, normalement.
Si c'est
là, normalement
avec...
aussi. Le premier joueur, normalement, il se fait pourrir dans Colt Express. Normalement, le premier joueur en score, ou celui qu'on pense être le premier joueur.
Ouais, dans l'idée, mais voilà, le truc, c'est celui qu'on pense, tu vois. C'est toujours le truc de... C'est pour ça que je trouve ça cool, il y a des butins un peu cachés et tout, on peut pas 100% calculer ça, alors que quand t'as de l'interaction vraiment très 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 directe dans certains jeux, et il y a vraiment aucune limite, le problème, c'est que du coup, ça devient juste un jeu de pure diplomatie et alliance, tu vois. Ce qui peut être un style, hein, ça peut être bien fait des fois, mais je trouve que Colt Express, t'es pas là-dedans parce que t'as quand même encore trop de hasard dans les cartes et trop de hasard dans la programmation, mais c'est pas du hasard, de l'information inconnue dans la programmation, où t'as les tunnels, t'as les trucs comme ça qui justement cassent ce truc. En fait, tu vois, je trouve que dès qu'il y a un problème, boum, le game design rebondit et arrive à contrer le problème, à mes yeux, tu vois.
Est-ce que l'un ou l'autre, vous avez essayé la variante expert qui est proposée avec un petit peu plus de contrôle dans la gestion de la main?
Non.
C'est quoi cette variante?
En fait, au lieu de rebattre toutes tes cartes et d'en piocher 6 en début de manche, tu crées une défausse de cartes personnelles et tu peux garder en main les cartes éventuellement qui t'intéressent pour la prochaine manche et que tu n'aurais pas utilisées. Et tu vas piocher dans ta pioche personnelle. Par contre, les balles que tu vas recevoir viennent sur le dessus de cette pioche et okay. Tu mélangeras ta défausse uniquement quand la pioche sera vide, quoi. Donc tu as une gestion de ta main qui est un peu plus facilitée, en tout cas dans le contrôle de ta main. Parce que tu peux en garder, voilà, c'est ça. Tu peux en garder et la gérer un petit peu plus facilement. C'est ce qui était proposé en fait en variante dite expert, mais c'est pas voilà. Bon, t'as l'inconvénient de prendre les cartes balles qui sont sur le dessus pour reconstituer ta main, quoi. Mais
en vrai, je trouve qu'il y a déjà de la flexibilité dans le jeu de base où tu sais, tu peux passer une action pour piocher 3 cartes.
Oui.
Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Même si tu le fais, en général, tu le fais seulement quand ton deck est un peu trop pourri. Mais... Donc moi, j'ai pas joué à la variante expert, mais après, je peux souligner un dernier point mécanique que je trouve très cool. c'est justement cette espèce de mécanique d'anti-deck building où en fait c'est pareil, c'est un truc assez rare, je crois pas avoir vu ça dans un autre jeu. C'est un jeu où tu pourris le deck des autres. Donc tu passes pas ton temps à améliorer ton paquet, tu passes ton temps à pourrir celui des autres. C'est trop bien, c'est juste c'est un sentiment absolument unique que j'ai jamais vu ailleurs. J'aimerais bien d'autres jeux comme ça qui explorent cette mécanique, tu vois.
Et ça, tu vois, d'un point de vue, mais on en reparlera dans la partie thématique, mais par contre, je trouve ça parfaitement cohérent avec, avec la thématique. Cet effet-là de pourrir, ouais. De pourrir la main de l'autre.
Je suis assez d'accord, mais en même temps, je peux concéder des points à Kurt sur ce point aussi, mais on y reviendra. Mais je trouve que ouais, c'est quand même super intelligent d'avoir pensé à ça, quoi.
Oui, ah non, je suis d'accord. Non, mais c'est. Alors là, ça fera peut-être une petite liaison avec la thématique, mais effectivement, les cartes que tu t'es mangées, on peut se dire que ton personnage, il est blessé, c'est plus compliqué pour lui, etc. Si tu te plonges deux secondes dans le jeu, je l'entends tout à fait, oui. Même si ça fait chier d'avoir quatre balles, quatre cartes pourries dans la main, tu peux plus faire grand-chose, quoi. Mais oui, ça, j'entends tout à fait que ça devient compliqué pour toi quand t'as bien morflé.
Est-ce que vous avez des choses à rajouter concernant les pouvoirs des personnages ? Est-ce que vous les trouvez équilibrés ou non ? Est-ce que ça a une importance au final dans ce jeu ?
Alors, est-ce qu'au final ça va avoir une importance ? Je suis pas sûr, mais en cours de partie, t'as quand même l'impression qu'il y a certains personnages qui sont quand même plus forts ou plus faciles à jouer que d'autres. Par exemple, j'ai souvenir de Belle. Belle, je crois que si on peut pas lui tirer dessus, s'il y a un autre bandit sur lequel on peut tirer, c'est quand même assez puissant, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Et
est-ce que ça a un impact?
Et Ghost qui permet de jouer toujours sa première carte face cachée aussi.
Ouais, généralement c'est les deux qui sont cités en top tier un peu. Et en low tier en général, je crois que c'est Tuco, celui qui quand il tire il décale les autres.
Tuco, il tire à travers le toit. Celui qui décale, c'est Django. Quand il tire, il fait reculer l'adversaire d'un wagon. Ouais.
Lui, il est un peu considéré comme low tier. Après, moi honnêtement, comme j'ai dit tout à l'heure, je m'en fous un peu que les pouvoirs soient déséquilibrés parce qu'il y a cette interaction très directe. Donc, au pire, si quelqu'un a un pouvoir craqué, eh ben, on l'attaque, tu vois, dès le début. Et puis après, il sera dernier, et puis c'est pas grave. Du coup, on l'attaque plus, et puis ça tourne, et puis voilà, c'est pas grave. Tu vois, même sur les pouvoirs, t'as qu'à chouiner, et puis c'est pas grave.
Et Christophe Rimbaud, il avait réagi par rapport à ça, parce que justement, c'est ce qui était souvent reproché au jeu. Et il avait expliqué que lui, ce qu'il souhaitait, c'était un jeu avec du fun et des personnages avec une identité forte, et que le parfait équilibre de leurs capacités n'était pas son objectif.
Voilà, Christophe Rimbaud, vrai game designer, tu vois, avec des vraies convictions à mes yeux, bravo. Même s'il a peut-être fait d'autres jeux pourris, je sais plus, mais... Mais franchement, tu vois, ça c'est une vraie opinion de game design, tu vois. Ça me fait penser vraiment à Fait Duty, tu vois, qui est un de mes auteurs préférés, enfin qui est mon auteur préféré, de dire bah en fait je m'en fous que ce soit équilibré, puisque de toute façon dans mon jeu ça se rééquilibre en fait par l'interaction. Alors il a peut-être pas imaginé ça comme ça, mais il veut avant tout que son jeu ait une identité forte, tu vois. Et ça, c'est, je trouve, c'est plus important que ton jeu il soit équilibré. On s'en fout que ton jeu il soit équilibré, c'est pas grave. Surtout que là, franchement, c'est du micro-détail, quoi. Je pense que si tu fais les stats, ça se joue de l'ordre de quelques pourcents de win rate, tu vois, de taux de victoire.
Tu le rangerais dans les jeux d'ambiance ?
Je sais pas, ça veut rien dire, jeu d'ambiance.
Ouais, tu penses. Ouais,
party
après,
game,
c'est.
Party game.
Ouais, party game, ouais.
Non. Moi non. Pour moi, c'est pas un party game. Moi, vraiment, ma classification de party game, c'est pas. C'est pas ce genre de jeu, tu vois. Moi, ça va être plus des jeux qui mettent en avant d'autres compétences que juste faire des choix et des trucs de hasard, tu vois. Tu vois, ça va être des jeux comme Codenames, où là, ta compétence, ça va être capable de jouer sur la linguistique, par exemple, tu vois. Ou les jeux de dextérité, ou les jeux de mémoire, tu vois. Moi j'ai tendance à plus caler ça dans les party games, même si, en fait, je pense que party game, il y a plein de gens qui voient l'espèce de... comment dire, de vision commerciale, de se dire « Ah, c'est à destination d'un tel public, etc. » Vous savez bien que je méprise les publics, enfin le principe de trier les gens par
de
public.
De cible, c'est ça.
Voilà, la cible, même la merci, cible. J'en trouve plus le mot. Voilà, j'en ai rien à foutre des cibles, je suis pas éditeur. Moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est plus le genre. Et en termes de genre, tu vois, là, t'es vraiment dans de la programmation, donc c'est... Ok, c'est fun, tu vois, mais je veux dire, il y a plein de jeux fun qui sont pas forcément des party games, tu vois. Je sais pas, Agricola, c'est fun. Je fais ça pour qu'on mette des commentaires un peu, tu vois. Démontrez-moi que Agricola, ce n'est pas fun. Dans les commentaires.
Est-ce que vous voulez nous développer un peu plus la partie thématique maintenant, Kurt, si tu veux commencer ?
La partie thématique, bah écoute, le jeu, pour moi, alors si on attaque le thème pur et dur, est-ce que le Far West, on en a quelque chose à foutre ? Non, le jeu pourrait très bien se passer dans des chariots au Moyen-Âge ou dans des vaisseaux spatiaux, ça changerait pas grand-chose pour le jeu. Professeur, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que le Far West était indispensable à ce jeu ?
Moi, je me pose pas la question de si c'est indispensable. Je me pose la question de juste, est-ce que dans l'état de fait, quand j'y joue, ça arrive à me transposer dans cette thématique,
ouais,
tu vois.
Ouais, ouais.
Et en l'occurrence, moi, je trouve que oui, tu vois. Genre, je pense qu'il y a pas mal de règles, ne serait-ce que mécaniques déjà, tu vois, qui ont été choisies pour cette transposition ou pour le réalisme, entre guillemets, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire par réalisme. Par exemple, je sais pas, quand tu te déplaces sur le toit, tu vas plus vite, tu vois. Y a certains pouvoirs, tu vois, qui jouent sur tu vois, le pouvoir de Belle. On a dit qu'elle pouvait pas se faire attaquer, mais voilà, elle s'appelle Belle, c'est parce qu'en fait elle est hyper, hyper belle, donc les gentlemen n'osent pas l'attaquer, j'imagine, c'est un délire comme ça, tu vois. Bon, tu vois, ce genre de truc, où genre, je sais pas, Cheyenne, quand elle tape quelqu'un, elle lui pique un peu une bourse de thunes, là. Parce que bah, j'imagine que c'est une pickpocket ou un truc comme ça. Tu vois, ça, en fait, ça raconte quand même quelque chose via les pouvoirs et tout ça. Et donc, ça arrive quand même à me transposer dans ce thème. Voilà, je peux te citer plein d'exemples. Hein. On a parlé des balles et tout ça. Quoi.
Ouais. Mais je pense que si tu me laisses 10 minutes, je te refais le même avec un vaisseau spatial. Et tu seras transporté pareil. Hein. Mais
bah,
j'entends
bien.
Tout à fait ton... Mais...
Est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais thème ? Je suis pas sûr.
Non, absolument pas. Non, absolument pas. Le Far West, c'est un très très bon thème, je veux dire. Et c'est même pas si courant que ça. Il y en a hein, dans le jeu de société. Non, c'est... Oui, j'entends bien le thème du Far West. Par contre, moi, personnellement, il y a quand même un truc qui ne va pas du tout dans le jeu. C'est le train en 3D. Alors, j'entends bien que si l'auteur avait décidé pour d'autres raisons de garder le même principe de rez-de-chaussée premier étage mais de mettre tout à plat, le jeu serait pas intéressant du tout. Moi personnellement, en fonction du nombre de joueurs quand on est placé autour de la table, et ben des fois on voit pas bien ce qui se passe dans le train, comment ça se passe. Est-ce que j'ai envie franchement de me lever, de me déplacer pour aller regarder où est mon jeton, ce genre de choses. En plus j'ai des gros doigts, c'est vraiment pas des gros doigts avec des grosses mains. C'est pas forcément facile pour moi de déplacer les jetons dedans. Et pareil à ça, je vais pas acheter un train qui fait 1m60, c'est hors de question. Voilà. Donc le matériel à ce niveau-là. Si on sort du fait que le train est particulièrement vilain, en plus de mon point de vue, je tenais à dire ça sur le côté 3D de la chose.
Tu penses que le rôle du matériel prédomine à l'intérêt de la mécanique dans le succès qu'a eu le jeu ?
Oui, clairement, si l'auteur avait décidé de faire ça sur un plateau de jeu, avec une partie qui représente l'intérieur du wagon et une partie à plat à côté qui représentait le toit, le jeu n'aurait jamais marché. Il n'aurait pas fonctionné. Pour moi, ce qui a fait, après, que les joueurs ressentent que c'est un bon jeu derrière, j'en doute pas. Mais ce qui a fait l'intérêt, ce qui a amené les joueurs vers ce jeu-là, c'est le côté esthétique, hein. C'est le bébé qui joue avec des clés. Hein. C'est juste parce que c'est joli. Après, tant mieux si les joueurs trouvent leur compte derrière et qu'ils trouvent que c'est un chouette jeu. Mais je pense que la première chose qui a attiré les gens, c'est la 3D.
Confesseur, t'as un avis par rapport à ce matériel en 3D, ce plateau en 3D, en fait, pour Colt Express ?
Ouais, alors juste pour abonder un peu dans ton sens, Kurt, moi je trouve que c'est pas tant les pions des bonhommes, enfin les petits bonhommes qu'on met dans le train qui sont pas visibles, mais c'est plus les bourses et les diamants qu'on
oui.
met dans le train.
Ah, d'autant plus, oui, d'autant plus qu'elles sont à plat, donc si, ouais. si t'es un peu mal placé, ou si t'es, tu sais, alors si, même si t'es en diagonale, si tu le mets en travers, bah t'as la moitié des cloisons qui vont gêner, tu vois pas, etc. Ouais. Quoi, c'est pas forcément simple de jouer à partir d'un certain nombre de personnes autour de la table pour ça. Pour ça.
D'autant plus que c'est un jeu qui joue plutôt de 4 à 6, tu vois, en vrai, c'est plus drôle quand t'es genre 5, tu vois, ou 6.
Et franchement, c'est quoi ces bandits qui décident tous d'attaquer le même train en même temps?
Ça, c'est trop bien.
Bah ouais, mais ils auraient chacun décidé de s'attaquer à un train différent, d'une, ils se faisaient pas plomber, et de deux, ils repartaient avec un plus gros butin. C'était quand même win-win. Et non, il fallait que les 6, ils décident d'attaquer le train là qui en même temps. C'est pas de peau.
Ah, c'est parce qu'au milieu de tous les trains chargés de prisonniers, en fait, il y a celui-là qui est en fait chargé de thunes, et voilà.
D'accord. Ah bah peut-être.
Et la fréquentation des lignes dans le Far West était peut-être pas...
ah, peut-être pas aussi souvent, c'est Exactement. Possible. Ça, je te l'accorde.
Mais du coup, pour répondre sur le train, bon, alors moi, pour ce qui est du succès du jeu, j'en ai absolument rien à foutre. Encore une fois, je suis pas éditeur, donc le jeu aurait pu ne pas avoir de succès, il serait tout aussi bon à mes yeux, tu vois. Mais moi, je trouve que le train... Alors, autant j'ai tendance à râler sur les esbroufs, tu vois, par exemple, du matériel en 3D dans Narak, autant je trouve que dans Colt Express, tu vois, ça sert vraiment la mise en scène, je trouve.
Ah, clairement. Non, mais ça, je suis d'accord. C'est ce que je dis. Okay. À plat, ça n'aurait pas été du tout la même mise en scène.
Ouais, OK.
À 200%, hein. Absolument.
Bah, en fait, je peux donner un exemple contraire. C'est le jeu Burgle Bros., qui se joue en fait sur l'idée c'est qu'on fait un cambriolage, tu vois, là Ocean's Eleven, tu vois, et ça se passe sur 3 étages, mais en fait les 3 étages sont genre les uns à côté des autres sur la table.
Dans le 2 ils ont fait un petit système où les étages sont les uns au-dessus des autres,
voilà, tu vois, et je trouve que en termes de mise en scène ça marche un peu mieux, tu vois, juste pour
c'est
ça,
vrai.
Même pour se visualiser, tu vois, dans Burgle Bros t'as aussi ce côté de, tu sais, si t'es sur telle tuile, si tu prends un escalier pour monter à l'étage du dessus, tu vois tout de suite, tu sais, où tu vas, comme ça. Et Colt Express, il y a clairement ce truc, tu vois. C'est déjà ergonomique, mais c'est aussi et surtout de la mise en scène, tu vois. T'as vraiment les personnages qui sont sur le toit, qui sont en train de se tirer dessus et tout. Je trouve que c'est vraiment une scénographie qui se déploie. Alors, par contre, je t'avoue que moi, j'en ai rien à foutre des petits cactus et des conneries que tu peux mettre autour du train, là. Ça, je trouve que effectivement ça me sert à rien, mais bon, tu sais, ils les ont mis parce que c'était le reste de la planche de punch, et de toute façon ça coûte pas plus cher, donc tu vois, je vais clairement pas dire que c'est surproduit, tu vois, c'est clair, ça, Colt Express c'est pas un jeu surproduit, tu vois, c'est un train en carton, c'est pas une figurine ou je sais pas quoi, tu vois. Donc justement, moi ça me va très bien qu'il soit vilain, tu vois, comme tu dis, parce qu'en fait moi je m'en fous qu'il soit beau, moi je veux juste que ce soit bien mis en scène, tu vois. Et pour le coup, je trouve que c'est bien mis en scène, que ça soit le train. Tout à l'heure, j'ai parlé du paquet de cartes, tu vois, qu'on retourne. Je trouve que c'est aussi un effet de mise en scène, tu vois. En fait, tu vois, c'est très, je vais dire, théâtral comme jeu. Tu vois, j'ai vraiment l'impression de regarder une sorte de scène de théâtre sous plusieurs angles, comme ça. Et il se passe des trucs, tu vois. Et limite, c'est un peu, tu vois, on a l'impression que les décors sont faits justement en carton-pâte, comme dans une scène de théâtre, tu vois. C'est pas comme dans un film où, tu sais, c'est hyper réaliste et tout, parce que t'es quand même dans du jeu de société, donc t'es dans du réel, tu vois, t'es face à des pions réels et tout. Et je trouve que ça crée vraiment une sorte d'immersion assez particulière, parce que moi j'avais fait une chronique sur les deux types que je cite d'immersion, qui sont la transposition et la sensation, tu vois. Donc c'est-à-dire, la transposition, c'est se mettre dans un univers, se mettre son esprit dans un univers, et la sensation, c'est vraiment ressentir des émotions pures, quoi, tu vois. Généralement, dans les jeux de société, on est plutôt dans la sensation. Généralement, tu vois, quand tu joues au château de Bourgogne, t'en as rien à foutre de l'univers. Par contre, tu ressens à mort, tu vois, des émotions quand tu joues au château de Bourgogne. Tu vas être genre frustré, tu vas avoir l'impression de construire des trucs et tout ça. Et je trouve que Colt Express, tu vois, il arrive à être parfaitement entre les deux, parce que, bah, tout à l'heure, je te disais, je trouve qu'il y a une cohérence entre la thématique et la mécanique en permanence, tu vois. Ce qui fait que quand je fais des déplacements sur le toit, je bouge mon petit bonhomme sur le toit et en fait, je me dis, ben oui, il est en train de courir sur le toit, c'est pour ça qu'il peut avancer plus vite, tu vois. Et tu vois, je suis en permanence dans des rapports comme ça dans ce jeu. Je me dis, ok, je vais tirer là-dedans, je vais tirer dans le tas, je vais bien toucher quelqu'un, tu vois. Je vais essayer de courir jusqu'à la tête du train pour choper la valise qui était gardée par le marshal mais qui est partie combattre les voleurs et tout ça. Donc en fait, je trouve que voilà, il se passe des choses en fait dans ce train, tu vois, ça raconte une histoire à la fois, je vais dire diégétique, tu vois, du point de vue de la thématique. Et à la fois du point de vue du gameplay, puisqu'il se passe des trucs comme « Oh putain, lui, il s'est pris sa cinquième balle, son deck, il doit être pourri. Oh, le Marshall, il a cassé ta programmation. » Voilà, tu vois, c'est un mélange comme ça en permanence. Et donc, cette cohérence thématique mécanique, moi, je trouve que ça crée un truc super harmonieux, tu vois, et cohérent.
Voilà, et c'est aussi renforcé par l'existence de ces deux phases, parce que tu as cette vraie phase de résolution où tout le monde va être dans l'attente de savoir ce qui va se passer et quel film va se dérouler sous tes yeux, ou quelle scène de théâtre va se dérouler sous tes yeux, si on reprend ce que tu disais. Et on est tous dans l'attente de voir là ce qui va se passer avec les cartes qui se dépilent et les personnages qui bougent les uns par rapport aux autres. Même si parfois il y en a un qui tape dans un mur, tu vois, effectivement, il y a une scénographie qui est extrêmement bien rendue pendant cette phase de résolution, pendant la deuxième phase du jeu, ouais.
Si je peux rebondir sur ça, en fait, il y a vraiment deux temps à chaque manche, tu vois. C'est il y a un temps où c'est la programmation, tu vois, la sensation de programmation est vraiment très forte. Parce que tu sais, c'est un moment où c'est comme on disait dans les westerns, tu sais, quand ils se regardent et tout, c'est, tu vois, le suspense, tu vois, le on guette ce que les autres ils sont en train de faire, tu vois, dans la programmation. Et après, tu sais, t'as effectivement cette résolution. Non, c'est marrant parce que ma dernière chronique dans les analyses du professeur, c'était sur les jeux à résolution. Et c'est vraiment un moment où on fait que regarder, tu vois, on fait que regarder. Et en fait, t'observes un peu les conséquences de tes choix. Et c'est là qu'il y a le côté, bah, comme on dit, théâtral, cinématographique, je sais pas comment tu veux dire. Moi, je trouve que c'est plus théâtral, tu vois. Mais où c'est là que tu as les retournements de situation et où ça pétarade dans tous les sens, tu vois.
Oui. Non, mais je comprends ton point de vue. Moi, à l'inverse, tu vois, quand je joue à Colt Express, au fait, au fur et à mesure de tout ce qui se passe, je vois tout ce qui va pas. J'arrive pas à me plonger dedans. Je comprends, hein. Et honnêtement, je pense que je voudrais, hein. Mais je peux pas. Au moment de dépiler les cartes, en fait, mais c'est complètement con. Voilà. Tu vois, c'est.
Mais après, moi, je trouve que c'est là que maintenant je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, genre quand il ramasse et qu'il y a rien ou des trucs comme ça. Moi, en fait, même thématiquement, j'y vois une logique, hein, parce que je me dis. En fait, tout se passe en simultané, tu vois. Donc, l'idée que je vois, c'est en fait, tu sais, genre, t'as sorti ton revolver pour tirer, puis tu sais, il y a quelqu'un qui t'a poussé, et donc tu tires dans le plafond sans faire exprès, donc tu rates, tu vois, ton tir.
Tout à fait. Le jeu, toi, arrive à te faire ressentir le sentiment de panique et d'urgence, ouais, qui est ressenti par les personnages. Moi, il n'y arrive pas, mais je comprends ton point de vue, oui.
Ouais, en fait, je trouve que il y a des tunnels, donc en fait, littéralement, les mecs sont dans le noir, tu vois. Donc, tu te dis, bah oui, c'est normal que, tu vois, t'as raté ton truc parce qu'on était tous dans le noir et t'es pas rendu compte qu'en fait, moi, je m'étais évadé du train et tout. Mais en fait, c'est un peu comme dans les jeux de course, tu sais, genre Formule D ou je sais pas quoi. En fait, tu sais, tu bouges chacun à son tour ta voiture, mais en fait, elles bougent simultanément les voitures, tu vois.
Oui, bien sûr, non, mais comme dans Hit, hein, c'est pareil.
Ouais, ou dans Hit. Tout à fait. Ouais, voilà, moi, c'est pour ça que je justifie ça thématiquement, même si. Je t'avoue que tu vois, je m'efforce pas trop à tout justifier thématiquement, tu vois.
Oui, mais tu sais quoi, je tâcherai de refaire une partie à l'occasion en essayant de penser à tout ce que. Ah non, mais je suis pas non plus quelqu'un d'obtus. Hein.
Au week-end proxy,
de penser à ce que t'as dit et de me dire et d'essayer de voir le point de vue de la personne qui aime le jeu. Ça, c'est tout à fait possible.
Après, toi, tu parlais des balles. Moi, je peux être d'accord que genre le seul truc thématique un peu bizarre, c'est les balles.
Les blessures que tu prends ?
Ouais, je trouve que...
Ouais.
Alors, tu vois, autant... tu sais, Caducé, tu l'as dit tout à l'heure, moi, je suis d'accord avec toi que c'est une super idée, tu vois, de dire, OK, tu te prends une balle, t'es blessé, donc t'as moins d'action.
Oui, et puis t'avances moins vite, tu vois. T'es potentiellement handicapé par une balle que tu t'es pris dans la cuisse ou dans la jambe et... et t'es moins rapide, t'as moins de possibilités d'action que quand t'arrives tout frais, tout sain, quoi.
Mais moi, honnêtement, là, tu vois, je concède un point négatif, tu vois. C'est que moi, j'aurais aimé que ce soit pire, en fait. Tu vois, j'ai pas vraiment le sensation... J'ai la sensation que me prendre un coup de poing dans ce jeu est plus violent que de se prendre une balle.
Ce qui est
bizarre,
oui,
tu
oui.
vois. Voilà, c'est le seul truc où, tu vois, je peux te dire ça, c'est bizarre, tu vois, dans le jeu. Moi, j'aurais aimé que, quand tu te prends une balle, c'est, je sais pas, peut-être, tu te prends deux cartes pourries dans le deck, au lieu d'une, tu vois, un truc un peu
oui,
plus violent, quoi.
Dans le sens où le coup de poing te fait reculer, te fait lâcher ton butin, etc. Alors que la balle, ouais. dans l'absolu, si tu, elle fait rien.
Elle te fait quasi rien, ouais, tu vois, elle va juste
ouais,
te limiter.
Ouais, bien sûr, effectivement.
Limite, en fait, il aurait fallu peut-être inverser les deux, tu vois. Genre que, tu sais, la balle, c'est tu lâches un butin et tu recules d'une case, tu vois. Alors que le coup de poing, c'est t'es blessé et donc t'as une pourriture dans ton deck, tu vois. Bon, après, voilà. Ça, j'y accorde pas une énorme importance, mais c'est quand même... là-dessus, c'est des retours que je vois souvent quand j'explique aux gens le jeu, tu vois. Ils disent, ok, je me suis pris une balle, j'ai juste une carte dans mon deck, c'est bizarre, tu vois.
Oui, qui dans l'absolu, peut-être qu'au final, aura eu zéro impact sur l'ensemble du jeu.
Ouais.
C'est vrai. Ouais, ouais, tout à fait, oui.
Bon, après, quand on s'acharne un petit peu contre toi, et puis que tu tires tes 6 cartes, et que tu te retrouves avec la moitié ouais. de ta main pleine ouais. de balles, c'est quand même, à mon sens, suffisamment handicapant pour la suite.
Je disais pour une balle. Pour ouais. une balle. Si ça se trouve, tu t'en prendras qu'une de tout le jeu, et elle aura eu peu d'impact. Peu ou pas d'impact. Mais oui, à partir du moment où tu t'en es mangé 4-5, là, ça doit commencer à piquer.
Ouais. S'il faut commencer à sauter ton tour pour piocher des cartes, pour réussir à en poser quelques-unes et pas te retrouver de nouveau attaqué par tout le monde, c'est, moi, je trouve ça suffisamment handicapant comme ça, en tout cas.
Je vais bien dire un dernier truc ouais, sur la thématique. Juste, moi, ça me fait penser à un animé, donc un dessin animé japonais, qui s'appelle Bakano. Je sais pas si vous connaissez.
Non,
ça me dit rien.
À un moment, il y a un segment, en fait, ça se passe, je crois que ça se passe au 19e, justement. Et en gros, ça se passe dans un train et il y a genre, je sais pas, 4 ou 5 voleurs, justement, qui sont en train d'attaquer le train en même temps pour des raisons différentes et tout. Enfin, ça a du sens dans le scénario de l'histoire, et je trouve que c'est vraiment l'ambiance qu'il y a dans Colt Express, tu vois, c'est le côté, c'est le bordel dans ce train, tu vois, donc voilà, moi je pense toujours à ça quand...
Ah ok.
Je pense à cette vibe-là, tu vois, dans Colt Express.
Donc pour conclure, pour la thématique, donc Pionf, une belle cohérence entre la thématique et la mécanique, et toi Kurtz, qui n'a pas encore trouvé... La bonne manière de voir les choses comme un film ou comme une scène de théâtre qui se déroulerait sous tes yeux.
C'est un excellent résumé.
Voilà. On peut, si vous le souhaitez, passer à la suite, parler des points qui n'auraient pas encore été abordés jusque-là et qui traiterait d'autre chose que de la mécanique ou de la thématique pure. Est-ce que vous avez des choses à rajouter l'un ou l'autre ?
Moi, je tenais juste à dire un petit mot sur les... On va se contenter de la boîte de base. Hein. Personnellement, j'ai pas fait je connais pas les personnages qui sont dans les extensions, dans les big box, etc. Je peux pas en parler. Juste sur les 6 personnages qui composent le jeu de base... Je trouve qu'ils sont un poil clichés. Alors, je suis partagé entre le fait que le jeu date de 2014 et qu'il se passe en 1899. Vous voyez, il y a un petit côté où je suis partagé à ce niveau-là. À ce niveau-là où la femme s'appelle Belle, l'indienne s'appelle Cheyenne. Voilà, c'est tout. C'est juste un petit truc que je tenais à aborder, mais qui n'a pas une grosse conséquence, un impact sur le jeu, plus de l'ordre de la réflexion.
Ouais, carrément, ouais. Bah, bon, franchement, j'avais oublié qu'elle s'appelait Cheyenne, tu sais, pour préparer l'émission, j'ai revu, j'ai fait, oh putain, mon Dieu, c'est cringe.
Bon.
Voilà, après, ça n'impacte pas vraiment le jeu, hein.
Non, et puis après, ça permet aussi de... Comme je dis, ça se passe en 1899, et puis c'était peut-être une façon pour l'auteur de... Pas de cliché, mais de stéréotyper le personnage. Ouais. Voilà, de le faire rentrer dans une catégorie large, sans forcément voir de la malice, voir le mal, quoi. Je vais partir là-dessus, moi.
Non, moi, je suis assez mauvaise en western, les films, hein, j'entends. Mais j'ai quand même l'impression que, globalement, les personnages des westerns sont aussi assez stéréotypés.
Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Non, mais ça permet, voilà, de s'immerger sans forcément creuser. Comme ça, voilà, tout est basé sur le look et le nom du personnage. Et on n'a pas besoin de lui créer un background. Ça fait le job. On va dire ça, et ça suffira, oui.
Pourtant, dans l'appli Colt Express, ils ont un background.
Ouais, mais je m'en fous. Honnêtement, j'ai pas besoin de fluff sur ce genre de jeu, quoi. Non, mais personnellement, si je veux du background sur des personnages, je lis un roman, quoi. Donc, bon. Non, mais c'est, voilà.
Ce sera mieux écrit.
Alors, des fois, c'est intéressant d'avoir un peu de fluff. Ça permet de, sur certains jeux, il y en a où c'est sympa. Celui-là, concrètement, c'était ma blague du début, hein. Pourquoi, tu voyais, je lui ai créé un background qui n'existe pas, hein. Donc, et on s'en fout. Donc, bon. Voilà, quoi.
Ah oui, pour Belle, c'est son charme et sa meilleure arme.
Oui, mais elle aurait pu s'appeler Gertrude et être jolie aussi. Hein.
Elle aurait pu.
C'était pas incompatible, donc.
Alors, faut noter qu'il y a eu il y a un des personnages qui apparaît dans la big box et qui est aussi dispo sur le site, qui est un personnage non binaire, hein, qui a fait son apparition il y a pas très longtemps, puisque la big box elle date, elle est relativement récente, mais ça sort un petit peu des stéréotypes qui sont présentés dans le jeu de base, justement.
Ouais.
Oui, j'ai pas particulièrement d'avis là-dessus. Je, ni pour ni contre. Pas de problème. C'est cool. Mais ouais.
Oui. Moi, je trouve ça cool, mais en fait, ça n'a pas d'impact sur cette émission, on va dire.
Voilà, oui.
Non, mais ça, c'est suffisamment rare pour le signaler.
C'est notable.
Oui.
Et puis si on réfléchit bien, après tout, je crois que Calamity Jane, qui est un personnage qui a vraiment existé, avait une image très 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 masculine. Tu vois, donc dans l'absolu, ça n'a rien non plus de choquant thématiquement par rapport au jeu, tu vois. Donc cool, pas de problème.
Juste pour digresser un petit peu, est-ce qu'il y a d'autres jeux avec une thématique Far West Western qui vous ont plu aussi ou qui ont un bon rendu thématique mécanique?
Alors personnellement, j'aime beaucoup Dice Town.
Pareil.
Ah bah ça me fait plaisir. Si pour résumer en deux mots, on jette des dés qui vont faire des combinaisons de poker, tu sais, les faces sont As, Roi, Dame, Valet, etc. dessus, donc on jette ces dés, on en garde un certain nombre, et en fonction des combinaisons qu'on a fait, on va aller, si c'est nous qui avons la majorité de Valet, on va pouvoir aller dans tel lieu, si la personne a la majorité de Roi, il va pouvoir aller dans tel lieu, les lieux sont résolus dans l'ordre, et c'est très sympa, très très sympa, ce jeu est très très sympathique.
Ouais, bah moi je l'aime bien, mais pas particulièrement pour sa thématique, tu vois, c'est...
Non, elle est... Oui, oui.
Pour ça que... Oui, je suis tout à fait d'accord que mécaniquement il est trop trop bien ce jeu. C'est très bien aussi pour faire jouer des débutants, je trouve aussi ce jeu.
Absolument. Et toi, Caducée ?
Moi j'avais essayé Bang, je crois. Et Cash and Gun aussi.
Oui.
Mais ouais.
C'est vachement bien, mais
c'est pas western. Ouais, après c'est vrai que t'as quand même un petit peu ce sentiment de je te tire dessus, ça pétarade, tu vois, donc c'est un peu associé moi dans ma tête à tout ça. Mais c'est vrai que
Cash and Gun, il aurait pu avoir une thématique western,
oui,
sans
il
problème,
aurait pu,
hein,
Cash and Guns. Ouais.
Ça détonnait pas. Ouais. Hein. Ils ont choisi la mafia, mais les cowboys auraient très bien fonctionné. Et Bang est très sympa aussi. Oui, effectivement, moi, je m'amuse bien quand je joue à Bang. C'est toujours très rigolo. En plus, les rôles cachés, c'est un truc qui me plaît bien en général. Donc, ouais, sympa.
Mais après, pour dévoiler un petit peu mon ressenti par rapport à Colt Express, je suis plutôt du côté pour, dans le sens où j'ai vraiment ressenti cette immersion et cette phase de résolution avec le film qui se déroulait sous mes yeux. C'est quelque chose auquel j'ai vraiment adhéré Et donc moi j'étais plutôt très très contente de pouvoir découvrir. Alors j'ai découvert au final assez récemment. J'avais parfaitement la vision du jeu en tête parce que je pense que c'est tout le monde là, hein, même sans avoir joué ce train en 3D. Une fois qu'on l'a vu, qu'on l'a croisé une fois sur une table de jeu, on sait qu'il existe et il y a, je pense, beaucoup de personnes qui savent à quoi ressemble Colt Express sans pour autant y avoir joué. Donc moi, je fais partie de ces joueuses-là. Et ça a été de gros moments de fun, ouais, vraiment, vraiment.
Après, tu demandais des jeux western avec une thématique. Moi, j'ai joué à Western Legends, qui est plutôt axé justement sandbox thématique et tout. Mais après, je pense qu'en vrai, c'est peut-être Colt Express quand même qui va peut-être... C'est parce que c'était peut-être ça ta tech, tu vois, qui va peut-être ressortir le mieux, tu vois, ce côté...
Ouais, c'est ça. Le meilleur rendu, en tout cas, entre la thématique et... La thématique et l'immersion dans la thématique, c'est difficile, à mon sens, de faire mieux que Colt Express, ouais.
En fait, Colt Express va vraiment rendre le côté fusillade, tu vois, alors que Western Legends, c'est le côté épopée, tu vois.
Ouais.
Donc c'est deux trucs différents au sein du genre western, tu vois. Mais après, juste pour ajouter un dernier point aussi sur Colt Express, je trouve que c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de personnalité. Genre, les personnages, tu vois, on a parlé là de du côté cliché qu'ils avaient et tout. Mais en fait, d'un point de vue des pouvoirs, je trouve qu'ils ont des capacités, tu vois, qui sont hyper marquées et hyper uniques. Et tu vois, qui sont plutôt violentes. C'est pas des pouvoirs comme on a dans certains jeux où genre, tu sais, ouais, c'est juste à plus 1 sur telle action, tu vois, des trucs un peu qui donnent pas beaucoup d'asymétrie entre les joueurs. Là, justement, bah, c'est ce qu'il disait apparemment Christophe Rimbaud, mais je savais même pas qu'il avait fait exprès. Mais en gros, c'était des pouvoirs qui sont volontairement très tranchés, quoi. Tu vois,
oui.
Y a pas un pouvoir qui ressemble à un autre, et ça, je trouve ça super cool. Mais ça se retrouve ailleurs que dans les pouvoirs, ce truc-là. Tout à l'heure, j'ai parlé de la mise en scène, tu vois, ça a vraiment sa personnalité aussi. Mais il y a aussi, bah, par exemple, tu vois, dans les cartes de programmation, enfin, c'est pas les cartes de programmation, mais les cartes qui disent comment on fait notre programmation.
Les cartes de manche.
Je sais plus comment elles s'appellent.
Ouais.
Voilà, les cartes de manche. Bah, t'en as qui ont des effets.
Oui.
T'en as qui disent, des fois on joue deux cartes d'un coup, tu vois. Enfin, il y a tout qui est fait pour que ce soit chamboulé en permanence, quoi. C'est trop cool. Mmh. Et tu vois, par exemple, ne serait-ce que la configuration de base du train, où genre au bout t'as la valise et le marshal qui sont dans le même wagon, tu vois, ça aussi, ça a de la personnalité, tu vois. C'est un truc qui est vraiment marqué dans le train. Il y a un truc qui vaut plein de points avec un bonhomme qui est là pour le garder, tu vois. Voilà, c'est que des trucs comme ça où il a voulu faire des choix de game design très tranchés. Et ça, tu vois, moi, je peux que respecter ça. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ?
Non. Non, là, comme ça, non. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire sur Colt Express.
Ouais, pareil. Bah après, pour résumer, tu vois, moi, juste, c'est un jeu... Alors, tu vois, je vais pas mettre 20 sur 20, parce que je pense qu'il y a quand même des défauts, comme je disais, avec les balles, là, qu'on se prend, et que je trouve ça un peu bizarre... J'ai pas non plus les émotions de fou comme j'ai quand je joue à Galaxy Trucker, tu vois, mais je trouve que c'est un jeu quand même qui montre qu'on peut faire des jeux simples, accessibles, machin, et qui soient incroyables avec des game design vraiment, très, très courageux, j'ai envie de dire. Pour
oui, t'avais employé le terme osé dans ta présentation, ouais.
Ouais. Ouais, tu vois, c'est franchement osé, tu vois, quand maintenant tu vois que la mode, ça va être de faire des jeux chacun dans son coin, des jeux, tu vois, où il va y avoir, pareil, des gros trucs en 3D et tout, là, pour t'attirer, mais en fait, tu débarques, et en fait, ça n'a aucune cohérence avec le thème, tu sais, maintenant, ils aiment bien faire des thèmes un peu sur la nature et les petits oiseaux, tralala, et en fait, quand ils jouent, tu fais juste la même chose que dans tes jeux de gestion d'avant, tu vois, c'est super bizarre. Où en fait, je trouve qu'il y a une espèce de mépris maintenant pour les jeux, tu sais, ils disent familiaux, les éditeurs, donc pour les jeux un peu à destination, on va dire, des débutants. Alors que tu vois, Colt Express, tu vois, c'est osé, c'est dire, ben non, moi, je prends pas les débutants pour des débiles, tu vois, je vais leur montrer, parce qu'en fait, quand on joue avec des débutants, on se rend compte que c'est exactement des jeux comme Colt Express qu'ils veulent. C'est-à-dire, c'est des jeux où il se passe des trucs, où ça leur montre que les jeux de société, c'est un média vachement plus rigolo que le Monopoly, quoi. Parce que eux, ils n'ont jamais joué à des jeux de société modernes, tu vois. Donc, ils n'ont pas envie de jouer à des jeux où tu fais ton truc chacun dans ton coin, il se passe rien. Ok, t'es content, t'as construit ton petit truc, et puis voilà, quoi. Non, eux, en fait, les débutants, moi, je les vois souvent aimer des styles plus comme la social déduction, comme les choix simultanés, donc la programmation en fait partie. Tu vois, ils aiment mieux les jeux où ça pétarade, en général, les débutants. Donc, je trouve que, tu vois, c'est un peu osé de faire un jeu comme ça, et avec, en plus, des principes super originaux en termes de game design, donc ce truc de anti-deck building, que des trucs qui sont cohérents avec la thématique et tout, donc t'es dans une espèce de jeu à moitié à l'américaine, à moitié à l'allemande, comme ça, c'est un truc assez unique, je trouve, Colt Express, quoi, dans l'histoire du jeu de société.
Une belle réussite.
Non, bah moi je vais terminer par dire que en fait c'est un jeu que, comment je pourrais dire ça? C'est un jeu que je pourrais vouloir aimer, mais j'y arrive pas. Il a plein de trucs qui sont... Et je comprends vraiment tous les arguments qui sont en sa faveur. Hein. Je me rends compte que le jeu est intéressant, que c'est rigolo, etc. C'est juste que moi, j'y accroche pas. En plus, il y a des tas d'extensions, il y a des tas de goodies dessus. Ce qui est toujours un plus dans un jeu, notez-le. Ouais, si je peux prêcher pour ma paroisse, hein, c'est toujours ça de prix. Et voilà, juste que je... Et pourtant, c'est bizarre, je vais vous dire un truc qui pourrait totalement contrebalancer tout ce que je viens de dire. J'adore Room 25, où effectivement, pour des raisons également, tu te retrouves à faire des actions dans le vide. Allez comprendre. Je sais pas, juste que Colt Express, il a pas réussi, on n'a pas eu le coup de foudre. Voilà.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de... Enfin, moi, je connais pas les extensions et tout ça de Colt Express. Par contre, j'ai joué à Colt Super Express.
Tout ce qui est autour du jeu de base, je peux pas. Je sais que ça existe, mais je peux pas en parler.
Non, mais
je me lancerai pas.
C'est juste pour dire. Colt Super Express,
oui, a priori,
c'est l'inverse de Colt Express. Tu vois, c'est vraiment.
Il paraît qu'il est. Oui, oui.
C'est une daube absolue.
Ouais, ils ont enlevé les éléments en 3D et en plus c'est une sorte de battle royale en fait. C'est le dernier qui survit, qui se fait pas éjecter du train, qui gagne. C'est quelque chose comme ça, non?
Ouais, non mais en fait peu importe les règles, le truc c'est que tous les sentiments de jeu que j'ai décrits dans Colt Express là, Colt Super Express ne les a pas, voire fait le contraire. Donc tu vois, c'est...
Ah oui.
C'est que des trucs où c'est précisément l'inverse, tu vois, c'est le truc consensuel à mort pour essayer d'attirer un public familial avec peu de règles, machin, en simplifiant le jeu, tu vois, enfin, c'est vraiment nul à chier, c'est que des choix de game design désastreux, c'est vraiment un des pires jeux auxquels j'ai joué.
Et le pire, et pour en revenir à Colt Express, le pire, c'est que, enfin, le pire, ça n'a rien de pire. Dans les toutes dernières chroniques, vous irez écouter, Mad raconte une expérience qu'elle a eue de Colt Express, qui peut donner envie. Elle a fait avec des amis une partie de Colt Express, grandeur nature. Alors, grandeur nature, je me comprends, hein, y avait des gens qui étaient debout sur des bancs. Vous voyez, ça permet, mais oui, c'est attirant, je comprends l'attrait de la chose.
Bah, c'était au Weekend Proxy jeu d'ailleurs.
C'est possible. Oui, ça doit être ça. Oui, oui. Bah voilà.
Alors, peut-être que tu te sentirais plus immergé dans l'atmosphère avec un Colt Express en grandeur nature.
Sur des bancs.
On verra ça. On verra ça. Je m'engage solennellement devant tout le monde. S'il y a une partie qui est lancée, je participerai.
Parfait.
Promis.
Ok. Bon, bah, merci à tous les deux pour ces échanges et vos avis assez tranchés. D'un côté comme de l'autre.
Merci à toi d'arbitrer.
Avec plaisir, oui, merci.
Ouais,
à
et puis
toi.
J'ai pas eu besoin de vous séquestrer dans les geôles de proxy jeux, donc c'est bon. Vous gagnez un petit peu de répit. Comme à notre habitude, vous trouverez sur le billet de l'émission l'ensemble des références qui ont été abordées aujourd'hui. Que vous ayez aimé ou non cette émission, faites-le nous savoir. Plusieurs moyens pour cela. Vous pouvez laisser un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i, jeu avec un x. Nous sommes également présents sur la plupart des réseaux sociaux, dont Blue Sky et Mastodon. Et enfin, vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord, qui est un lieu adapté pour débattre et échanger. Sur notre site, vous aurez aussi accès à la procédure à suivre pour nous soutenir et entrer dans le cercle des donateurs et donatrices. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous lundi pour le deuxième épisode de l'émission Un jeton dans la mare et vendredi pour de nouvelles chroniques. À dans 2 mois pour un nouveau Le Pour et le Contre, et d'ici là, jouez bien.